J'ai donc continué cette lecture commencée les dimanches précédents dans Matthieu. Entre-temps, c'est-à-dire entre ce que nous avons laissé et maintenant, Jésus a continué d'enseigner ses disciples. Trois d'entre eux, d'ailleurs, vont entendre une voix extérieure à eux, celle de Dieu, dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le ». C'est le récit de la Transfiguration. À partir de là, l'opposition des pharisiens et des scribes est telle que Jésus, plusieurs fois, prépare ses disciples à leur futur. Ce sera à eux, bientôt, de proclamer la bonne nouvelle. Lui, physiquement, ne sera plus là avec eux. Notre passage, celui que je viens de lire, se situe après l'entrée de Jésus à Jérusalem, juste avant la Passion, ce que l'on appelle le jour des rameaux. Et certains des disciples manifestent des désirs de grandeur, de puissance. Alors Jésus leur rappelle ceci, « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Puis Jésus, plusieurs fois au chapitre précédent, met en garde, « Prenez garde que personne ne vous égare, beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils égareront une multitude de gens. » Et nous arrivons à nos trois passages. Et globalement, en lisant ces trois passages, en ne les coupant pas comme on a l'habitude de les couper, nous noterons quelques points communs, puis quelques différences. D'abord, ce sont des temps d'attente. Les 10 jeunes femmes, puis les 3 serviteurs du maître sont en attente du retour et de l'époux et du maître. L'époux et le maître, donc, étaient partis. Quant à la 3e histoire, c'est le retour et le roi constate comment ont vécu chaque habitant de toutes les nations pendant l'attente. Dans chacun des textes sont notées des différences. Différence entre l'attente prévoyante chez les jeunes femmes sensées et l'attente un peu sotte chez les jeunes femmes insensées. Différence encore entre l'attente active chez les 2 premiers serviteurs du maître et celle détachée, égocentrique pour le 3e. Quant au 3e texte, est-il un jugement ? Je le lis plutôt comme une constatation. C'est un regard, en tout cas, porté sur le passé de chacun, alors que l'attente s'achève pour tous les habitants des nations. D'autre part, nous constatons qu'il n'y a pas de distinction des personnes quant à leur intention par rapport à l'attente. Les jeunes femmes attendent l'époux et leur désir semble d'être accueilli simplement dans la salle des noces. Et l'époux n'ouvre pas car il remarque qu'il ne connaît pas celles qui sont en retard. Il ne les renvoie pas en leur disant « c'est trop tard ». « Non, je ne vous connais pas », dit-il. Les 3 hommes reçoivent la confiance du maître de manière tout à fait égale. Même si les sommes confiées sont différentes, la confiance est la même pour chacun. Le maître ne fait aucune différence entre eux quant à leur personne. À son retour, il les écoute avec la même attention. Il récompense même les 2 premiers par la même phrase. « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » De même, les hommes des nations sont séparés selon le même critère. C'est le critère de l'attention portée aux plus petits, car c'est là, dit-il, qu'il se trouve, lui, le roi. De plus, il n'y a pas de tri non plus dès le départ. Vous savez, dans le genre « toi, tu n'es pas bon, tu n'auras rien, autant te jeter tout de suite ». Et ça nous rappelle la parabole du bon grain et de l'ivraie, non ? Il n'y a aucun tri. Chacun peut jouer toute sa vie sur l'instant qu'il vit. Il peut se perdre, mais il peut aussi être dans sa vérité en chaque instant. Rien n'est jamais définitivement perdu ou même gagné. les bénis et les maudits, l'avez-vous bien entendu, ne savent même pas quand ils ont fait ce qu'il leur est attribué ou quand ils ne l'ont pas fait. Ce n'est donc pas de l'ordre du savoir. Chacun et tous vivaient de la même manière, traversant sa vie, longue ou courte, rencontrant des mal lotis, des petits de la vie. Vous savez, les petits de la vie, ce sont ceux qui ne font pas de bruit, qui s'excusent même parfois de vivre. Mais la vie est un don fait à chacun, le même, unique sur terre, chacun. Et chacun reçoit ce don de la vie, quel qu'il soit. Et petit ou prochain des petits, c'est simplement par le regard que l'on ouvre sur l'autre, par l'attention qu'on lui porte, que l'on s'ouvre soi-même à l'amour de Dieu, que l'on s'offre à sa rencontre. Et chacun, béni ou maudit, vit ou a vécu sa vie. J'aurais donc envie de dire que ces trois textes seraient un hymne à la vie. Mais quelle vie ? Le philosophe juif Michael Levinas écrit « Un Dieu d'adulte se manifeste précisément par le vide du ciel enfantin. » Par cela, il indique que la foi est comme l'accueil d'un Dieu privé de toutes les surpuissances dont notre petit enfant intérieur a besoin pour se sentir hors d'angoisse. Et les angoisses, les peurs, nous en avons tous. Peur de toutes sortes de maux, le mal physique, le mal psychique, la mort, celle de celui que l'on aime, ou la sienne. Alors malheureusement, bien des discours religieux ont affirmé que de Dieu qu'il était une sorte de super-héros, capable de vaincre tous les faiseurs de mal, capable de protéger contre tout ce qui fait mal dans une vie. Les religions ont affirmé, sans en savoir beaucoup plus, que la mort n'aurait pas le dernier mot. Toutes les religions proposent un « après la mort ». Mais personne ne peut réellement en parler. Le christianisme est fondé sur l'événement « résurrection de Christ » qui nous introduit à cette conviction de foi, mais non de savoir que la mort n'a pas le dernier mot. Et d'ailleurs, Christ, en quittant ses disciples, c'est la dernière phrase de l'évangile de Matthieu, dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », alors qu'il est en train de les quitter définitivement, physiquement. Ne pourrait-on pas se laisser aller à la confiance de cette promesse ? Mais les religions ont aussi inventé des multitudes d'obligations, de rites ou de comportements dans le but d'être de ceux pour qui la mort n'aurait pas le dernier mot. Et même si la réforme est passée par là, suivie ensuite par le catholicisme, en affirmant la gratuité de l'amour de Dieu, il n'en demeure pas moins que bien des personnes espèrent, par leurs actes, prières et rites, pouvoir être en règle avec l'époux, par exemple, afin de pouvoir entrer dans la salle de noces. Alors, dans cette première petite histoire, je lis un symbole avec l'huile de la lampe, le symbole de la foi, de la confiance, dont sont pourvues les jeunes femmes sensées. Pas besoin d'en avoir plus pour allumer leur lampe est allumée. Et celles qui sont insensées sont encore obligées d'aller acheter ce qu'elles pensent être l'indispensable pour entrer chez l'époux. Avec quoi arrivent-elles ? Quelles folies ont-elles achetées à des charlatans, à des faux prophètes ? Quelles folies ont-elles achetées qui les éloignent tellement de l'époux qu'il ne les reconnaît pas ? Alors que peut-être simplement, si elles étaient allées le trouver en lui disant leurs regrets, elles auraient trouvé en lui celui qui les connaissait, elles. Dans la parabole des trois hommes, je vois le don qui est fait à chacun, représentant simplement le don de la vie. Je vais retrouver encore un autre philosophe, cette fois il est français et chinois, académicien, c'est François Cheng. Il écrit « L'absolu de la vie signifie que, s'offrant en don à chacun, elle est aussi une exigence. Elle implique un certain nombre de lois fondamentales qui sont garantes d'une vie ouverte et partant de la vraie liberté. Vivre ne se limite pas au fait d'exister corporellement. Vivre engage l'être tout entier. Les deux premiers serviteurs ont immédiatement adhéré à cette exigence par rapport à ce don qui leur est fait, la vie. Ils sont entrés immédiatement, engagés tout entiers, dans une vie nouvelle, libre et forcément productive, car l'ouverture, l'amitié, l'attention ne peuvent qu'être un plus dans la vie ensemble, un plus de bonheur, de légèreté, de joie. Ils sont déjà entrés dans la joie de leur maître avant même que ceux-ci ne leur demandent de rendre des comptes et qu'ils ne le leur annoncent. Ce n'est pas ce qu'a compris le troisième homme, qui a fait librement le choix de vivre seul. Alors, sa vie n'a jamais rencontré de mal loti ou de miséreux. Sans doute a-t-il plein leurs conditions, mais ne s'est pas senti concerné. Parti avec l'huile qui symbolise la confiance en ce que l'on a reçu sans avoir à l'acheter, nous sommes arrivés à la conscience de ce don qu'est notre vie, longue ou courte. Vie que nous considérons liée à toutes celles de ceux qui nous ont précédés, inscrite dans une chaîne d'existence et de vie, mais responsable aussi devant toutes celles qui nous suivront. Vie que nous vivons à chaque instant, touchée par les vies de nos contemporains les plus démunis. Évidemment, cette dernière remarque ne fait que constater que chaque être de chaque nation sera amené à tout moment de sa vie, à reconnaître où il en est avec l'huile de sa foi, ou encore à décider de vivre seul ou en communion avec le monde et ce que le monde globalement toujours met à l'écart. Les malades, les assoiffés, les affamés, les étrangers, les dévêtus, les emprisonnés. Nous pouvons peut-être nous dire qu'il n'y a pas d'autre enfer ou paradis que celui que nous choisissons en faisant les choix de nos vies. La vie éternelle, nous pouvons la toucher à chaque rencontre avec Dieu, au cœur d'un plus petit sur notre chemin. Le châtiment éternel, nous pouvons l'expérimenter lorsque nous rétrécissons nos vies à nous-mêmes, pleurant sur nous, aveugles et sourds à l'humanité qui nous entoure. Mais l'un comme l'autre nous est possible à tout instant. Là où se trouve l'amour d'un Dieu, toujours prêt à tout recommencer avec nous, toujours prêt à nous faire confiance. Amen.